Marie-France, je dois t'avouer que quand j'ai parlé à Jean-Marc Léger cette semaine à notre émission ici, c'était pour commenter son sondage qui révélait que pour la première fois, les conservateurs prévenaient de prendre la tête des sondages en quatre ans.
Oui.
Mais je cherchais, je regardais où était le NPD. C'est désastreux. Ils étaient à 12 % des intentions de vote dans ce sondage Léger.
Exactement. Et il y a eu un autre sondage. En fait, ils vont se multiplier parce que les élections, ça s'en vient, c'est dans 8 mois. C'est donc au mois d'octobre qu'auront lieu les fédérales. Et le Parti conservateur, le Léger l'a montré, mais le Main Street, Cogeco, a suivi et allait dans le même sens. Le Parti conservateur commence à dépasser le Parti libéral du Canada. Et ça a été pris, ces sondages-là, en plein pendant l'affaire SNC-Lavalin, la gestion de crise calamiteuse dans le cas de Mme Jody Wilson-Raybould. Donc, il y a tout ça. Et lundi aussi, c'est une partielle dans 3 circonscriptions au Canada, entre autres Burnaby Sud, en Colombie-Britannique. Là, j'ai l'air de nerd d'élection en te disant ça, mais c'est important parce que le chef du NPD, Jack Metzing, pourrait ne pas être élu.
Exact.
Et là, ça a des conséquences.
C'est une possibilité.
C'est une possibilité.
Il traîne dans les sondages.
Oui, c'est vraiment une possibilité envisageable. Et s'il n'est pas élu, alors là, c'est vraiment une catastrophe pour son parti. D'autant que, donc, tu l'as dit, son parti va vraiment pas très bien au Canada, mais c'est au Québec que les chiffres sont particulièrement intéressants. Rien de surprenant dans le fait que le Parti libéral de Justin Trudeau soit encore largement en tête, mais le Bloc et le Parti conservateur se mènent une lutte très serrée. Et après ça, arrive le NPD. Une moyenne de 10 % dans les deux sondages et dans le sondage Léger, 6 % Les Verts, Paul, sont à 8. Nomme-moi un candidat vert au Québec. Ben voilà. Plus, à brûle pour point.
Est-ce qu'on retrouve le parti de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada?
Le parti de Maxime Bernier dans le long Léger est à 5. Ah. 5 pour le Parti populaire de Maxime Bernier, 6 pour le NPD, 8 pour les Verts. Aux dernières élections, le NPD avait fait 25 % au Québec. Tu te rends compte, c'est vraiment assez hallucinant. Et si ce n'était pas assez, donc, il y a cette possibilité-là que M. Singh ne soit pas élu en Colombie-Britannique lundi. Et il y a des députés qui quittent le navire du NPD, qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Marjolaine Boutin-Souis dans Hochelaga, Christine Moore dans Abitibi-Témiscamingue, Hélène Laverdière qui était vraiment un des piliers du parti au Québec. Roméo Saganache. Oui. Écoute, Roméo Saganache ne se représente pas. Pierre Nantel, qui est le député de Longueuil, qui est vraiment un homme très intéressant, bien important dans le parti, dans le NPD, est en réflexion. Et Alexandre Boulris, dont on ne doutait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'il soit élu, qui est là depuis 2011 lui aussi, dans Rosemont-Petite-Patrie. Rosemont-Petite-Patrie, tu sais que c'est la circonscription à Montréal de Projet Montréal. Et à Québec, c'est Québec solidaire, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. C'est donc une circonscription peinturée orange dans tous les étages électoraux. Tu sais qu'il est en avance de 2,4%
seulement
sur le libéral?
Incroyable.
C'est fou, là. C'est vraiment fou.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Mme Ruth Hélène Brosseau?
Normalement, elle se présenterait. Normalement, elle se présenterait. C'est vraiment quelqu'un de très apprécié dans le parti également. Mais c'est te dire, là, on n'a pas encore la répartition en nombre de sièges que ces chiffres-là, entre 6 et 10 % voudraient dire au Québec. Mais on s'entend qu'ils vont en perdre beaucoup. Et là, ça me faisait me poser la question. La fameuse vague orange de 2011, celle qui a mis carrément, et c'est le Québec votant massivement pour le NPD, qui avait mis le NPD comme opposition officielle au Canada. Nos chiffres avaient fait pencher la balance du côté du reste du Canada.
Et qui avait presque signifié la mort de Gilles Duceppe et du Bloc québécois.
Tout à fait. Alors, est-ce que c'était une anomalie? Est-ce que ça a été une folie collective temporaire? Est-ce que ça a été une erreur? Est-ce que ça a été l'effet de Jack Layton à Tout le monde en parle? Il y a beaucoup, beaucoup de
Moi,
ça
je pense
aussi.
Que oui,
oui, ça a certainement joué. La personnalité de Jack Layton, mais encore fallait-il la connaître et la connaître à travers une émission d'immense audience.
Oui, parce que la
comme
preuve,
à l'époque, Tout le monde en parle.
Son successeur n'a pas été capable de garder le même intérêt pour le parti. Je parle de Thomas Mulcair, bien
Exactement,
sûr.
Et qui était quand même connu et reconnu. Donc, ça me fait poser la question, est-ce que l'électorat québécois au fédéral est si influençable, si sentimental, si émotif dans son vote au fédéral? Je me pose vraiment la question, mais ça, en tout cas, ça remplit un peu ces critères-là que le vote de 2011 pour voir à quel point ça s'est évanoui et le Bloc, comme je te dis, qu'on disait vraiment sur le bord de l'agonie, est increvable. Donc, il faut reconnaître qu'il est ancré quelque part dans les sentiments et dans les aspirations des Québécois.
Mais tu ne penses pas que le repli incroyable du NPD ne passe pas uniquement par le fait que Jack Meade Singh n'est pas le chef qui a été accepté? Je pense que ça va au-delà du chef. C'est le fait que le Parti libéral, représenté par Justin Trudeau,
exactement,
représente un parti plus dynamique que Michael Ignatieff au moment de l'élection.
Il a, Justin Trudeau, au moment de son avènement à la direction du Parti libéral,
a recentré,
l'a pas recentré, il l'a tassé vers la gauche, et il est donc venu braconner sur les terres du NPD.
Exactement. Et il a abordé des thèmes qui étaient carrément ceux qui étaient réservés au NPD.
Ben oui. Alors, la réforme du mode de scrutin qui a été abandonnée très rapidement. Oui. La légalisation du cannabis avec laquelle on est encore pris au Québec. Oui. On ne sait pas trop quoi faire. Parlez-en à Lionel Carman. Oui. C'est vraiment
intéressant
de voir combien ça se traduira en termes de sièges, aussi bien pour le Bloc québécois aussi, mais je suis prête à parier que le Bloc en aura plus.
Surveiller l'élection de lundi, là.
Oui, exactement. Exactement.
Ça va être déprimant là, si le chef n'est pas élu.
Sérieuse remise en question.
Tout le Canada. Tout le monde va paniquer du côté du NPD on est à 6 mois d'élection.
C'est clair.
Bon, est-ce que tu crois à l'exercice par le Vatican sur un thème aussi capital, aussi important, cet exercice, évidemment, sur les abus sexuels qui ont secoué l'Église catholique?
Je vais te dire, je suis extrêmement sceptique. Trop peu, trop tard. C'est en fait le MeToo de l'Église, que ces 5 jours qui vont se dérouler au Vatican sous la direction du pape, parce que partout, dans une dizaine de pays, depuis une trentaine d'années, les victimes réclament justice. Il y a vraiment une vague de dénonciations de prêtres abuseurs. On l'a vu au Canada, bien sûr. Aux États-Unis, on en entend beaucoup parler. En Australie, en Allemagne, en Irlande, au Chili. Et étrangement, ce mouvement-là n'a pas encore touché l'Asie ou l'Afrique. C'est vraiment concentré en Europe et en Amérique. Et ça arrive au moment où toutes sortes de choses sortent autour des abus commis dans l'Église. On a entendu hier en entrevue chez Paul Arcand, Frédéric Martel, l'auteur du livre Sodoma, le film de François Ozon, le réalisateur français, Grâce à Dieu, sort et qui dénonce des abus également qui ont eu lieu par des prêtres français. Alors, le pape François, en ouverture, a dit, il faut aller au-delà des condamnations évidentes, il faut mettre en place des mesures concrètes et efficaces. Soit c'est le fun, c'est correct. Parmi ce qui va être examiné, une prise de conscience, la fin du tabou, parce que c'est important de nommer, bien sûr, mais ça va prendre plus que ça, et ça va prendre plus que des excuses. Ce sont des vies qui ont été brisées et qui continuent d'être brisées parce que l'Église catholique, si elle n'a plus le même ressort et la même influence ici, en Amérique latine, c'est vraiment... son emprise est totale. Donc, ça va prendre des actions, ça va prendre des gestes. On a parlé de protocoles clairs pour gérer les cas d'abus, c'est ce qu'on veut mettre en place. On veut mettre en place des mesures de soutien aux victimes, le recours aux autorités civiles, mais il va vraiment falloir que ce soit très clair parce que l'Église ne pourra pas confier les enquêtes et les sanctions à l'Église elle-même, au Vatican. Ils sont juges et partis. D'une part, ils sont mal équipés, mal formés, mais ils sont juges et partis. Il faut vraiment que l'Église laisse faire les tribunaux nationaux et qu'eux-mêmes soient formés pour ça. Et puis, ça regarde très mal à tous les points de vue. Dans les points abordés, il y a 21 points comme ça qu'on va aborder pendant ces 5 jours-là, on n'a pas retenu la demande répétée des victimes pour que les abuseurs et les évêques qui les ont soutenus et protégés soient renvoyés des ordres. Oui. Alors, ils pourraient très bien rester dans l'Église, ce qui n'est pas très, très sain, on l'admettra. On n'a pas voulu ouvrir les archives du Vatican, ce qui veut dire que le secret absolu ne sera pas rompu. Oui?
Non.
Okay.
C'est parce qu'on arrivait à la fin de la chronique.
OK. Oui. Mais vraiment, on n'abordera pas les thèmes super importants, celui du célibat obligatoire des prêtres. On ne lèvera pas ça et c'est le cœur du problème, évidemment. Et l'Église ne peut pas l'ignorer. Ce serait une seule des seules sorties de crise possibles. Briser la chasteté, reconnaître la sexualité, le mariage, l'homosexualité et l'hétérosexualité des prêtres. Alors, l'Église vit vraiment dans le déni. Pour l'instant, ça ressemble à une entreprise de vagues excuses, de camouflage. Je suis extrêmement sceptique. On n'abordera pas le fond de la question et l'Église va en payer très cher le prix, j'en suis persuadée.
Marie-France, merci beaucoup. Bon week-end.
Toi aussi, Paul.
À lundi, au retour de la pause, François Gagnon nous parle des malheurs d'SNC-Lavalin, mais je parle des malheurs financiers. Ça a été un désastre au quatrième trimestre.